1901 sur 90, c'est la radio des assos. Une émission proposée par l'AGLCA, Maison de la vie associative de Bourg-en-Bresse, avec l'aide précieuse de Radio B.
Chers associatifs, associatives, bonjour. Nous nous retrouvons ce beau mois de mars pour parler de bridge. Et oui, une activité qui peut être aussi bien pratiquée l'hiver devant la cheminée, mais aussi en ce début de printemps pour profiter du soleil retrouvé en terrasse. Alors, qui recevons-nous aujourd'hui, Loïc ?
Eh bien oui, nous recevons le Bridge Club. Alors, nous avons trois personnes avec nous dans ce studio. Monsieur Decl, qui est administrateur et ancien président du Bridge Club. Monsieur Schillinger, qui est actuellement vice-président du club. Et puis, Madame Perrin, vous êtes secrétaire générale. Bonjour à tous les trois. J'espère que je n'ai pas accroché vos noms.
Bonjour.
Après l'interview du jour, nous poursuivrons par un moment formation où je prêterai ma voix à Renaud Druid, directeur de l'AGLCA, pour parler numérique et association.
1901 sur 90, on vous présente l'asso du jour.
Pouvez-vous nous présenter votre association en quelques mots ?
Alors, qui veut prendre la parole ?
Oui. Le bridge est un jeu de cartes, un jeu de l'esprit, longtemps considéré comme un jeu réservé à une élite. Alors, le Bridge Club a été créé en 1948 et rassemble actuellement 154 adhérents.
D'accord. Ce sont des adhérents sur Bourg-en-Bresse, un peu environnant ?
Sur Bourg et sur les communes environnantes, notamment Péronnat, Saint-Denis. Et on a aussi des adhérents qui viennent d'autres régions, enfin de la région lyonnaise, pour former des équipes avec celles de Bourg.
D'accord. De tous âges, c'est pratiqué. Il y a des enfants, des
non, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants à part le fait que le club fait des initiations auprès des collèges pour les enfants de 6e, 5e. Et donc, on avait Péronnat, Saint-Denis et à Jeanne d'Arc. Donc, c'est une initiation qui est faite pendant la pause de midi.
D'accord.
Une fois par semaine.
Nous vous avons demandé de venir avec un objet qui représente votre association. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Je vais vous présenter deux objets un peu techniques. Voilà, une boîte à enchères qui permet de faire des enchères dont on parlera peut-être dans le détail. Alors, du fonctionnement du jeu.
Voilà, peut-être est-ce que vous pouvez simplement nous la décrire pour les auditeurs ?
C'est une boîte de donc, 7, 4, 7, 28, 28 cartons. Qui s'emmanchent les uns dans les autres et qui font partie des annonces du bridge. Ça permet d'annoncer combien de levées on va faire dans une couleur, quelle qu'elle soit, trèfle, carreau, cœur, pique.
D'accord, donc ça c'est votre premier objet.
C'est le premier objet, très technique, puisqu'au bridge, on fait ces annonces-là sans parler, tout se fait dans le silence. On pose simplement les cartons devant soi et c'est le sens affiché par le numéro et la couleur qui donne l'information aux partenaires et aux adversaires à la table.
D'accord, donc c'est un jeu d'annonce. Et alors, pourquoi pas la parole ? Par exemple, moi je suis joueur de coin, je sais qu'on parle.
Absolument, mais voilà. Là on est 15 tables. 15 tables multipliées par 4 personnes. Vous avez compris que si tout le monde parle en même temps, on ne peut plus jouer.
D'accord. D'accord, donc c'est un jeu qui se joue à 15 en même temps ?
Avec 15 tables en même temps.
D'accord.
Et tout le monde joue les mêmes jeux, puisque les jeux sont rangés dans des boîtes. Et ces boîtes, elles circulent de table en table. Tout le monde joue la même chose.
D'accord. Donc voilà pour ce premier objet.
Le deuxième objet, parce que le bridge se modernise. Voici un bridge mat, je crois qu'on le met au masculin. C'est une boîte électronique qu'on a sur les tables, qui remplace depuis quelques années l'inscription sur des fiches écrites qu'on casait sous les petites tablettes dont je viens de parler. Quand on a un résultat, celui qui s'affichait avant au stylo et qu'on rangeait dans la boîte se fait maintenant électroniquement avec l'inscription sur cette boîte que l'ordinateur recense.
D'accord, donc ça ressemble à une grosse calculatrice.
Exactement.
Donc il y a des numéros, mais on voit aussi les symboles, trèfle, cœur, pique, carreau.
Exactement. Voilà. Donc on enregistre ici ce qu'on a joué, le contrat réussi ou raté, et ça, tout est archivé sur l'ordinateur pour faire les comptes en fin de partie.
Alors si on essaye de se lancer rapidement dans l'explication des règles pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas du tout les règles du bridge.
Si vous allez sur internet, j'enchaîne parce que j'en sors là, pour essayer d'être clair. Le whist anglais est l'origine du jeu, c'est au 16e siècle que ça se passe et ça se joue encore. Moi je me souviens avoir fait des soirées de whist avec un jeu de cartes. On annonce le nombre de plis qu'on va faire.
D'accord.
Une levée, deux levées, trois levées. Et c'est le principe même du bridge. Annoncer un contrat de nombre de levées. Je parle sous l'autorité de l'enseignant qui est à côté de moi.
Donc 52 cartes.
Oui.
52 cartes. On dit combien de levées, c'est-à-dire 7 implis, combien de plis on va remporter.
Absolument. À la couleur, trèfle, carreau, cœur, pique.
D'accord.
Ou à sans atout pour ceux qui ont fait déjà de la couache sans atout. C'est-à-dire.
Donc voilà, soit on peut déterminer un atout, soit il n'y en a pas.
Absolument.
Quand une couleur est demandée, on joue de la couleur demandée.
Absolument.
L'ordre des cartes, il est
hiérarchisé.
Alors, c'est-à-dire
trèfle est le moins fort, carreau juste au-dessus, cœur et pique.
D'accord.
Donc quand vous dites je vais faire 3 levées à trèfle de plus que la moyenne et que votre voisin de gauche dit moi je vais en faire à carreau, il remporte sur vous parce que le carreau est plus fort que le trèfle.
D'accord.
Ça s'est fait très tard. La hiérarchisation, c'est, j'ai vérifié, c'est 1890, donc on est déjà au 19e siècle.
Donc si on réussit notre contrat, qu'est-ce qui se passe?
Ça donne un nombre de points déterminé.
D'accord. Si on fait plus que ce qu'on a annoncé?
On a un nombre de points supérieur à la moyenne.
D'accord.
Et si on rate, c'est l'adversaire qui marque dans sa colonne.
Et si on rate, c'est l'adversaire qui marque. D'accord.
Il faut ajouter juste une chose, c'est que c'est un jeu d'entente entre partenaires. Tout se fait d'une façon codée. On annonce un trèfle qui veut dire je vais faire 7 levées à la couleur trèfle sur les 13.
Alors là, c'est un peu technique.
Non, regardez. 13. La moyenne, c'est 6,5. Ça n'existe pas,
oui.
6,5 cartes. En revanche, 7 cartes, vous en faites plus que l'adversaire qui en fera 6.
Oui.
Hein? Donc un trèfle, ça veut dire je vais faire 7 plis, l'adversaire n'en fera que 5, n'en fera que 6.
D'accord.
Voilà, vous avez compris, deux trèfles, ben je suis obligé de faire une levée de plus.
D'accord.
C'est ça le contrat.
D'accord.
Et ça se fait entre partenaires avec des enchères qui sont, c'est les chiffres et les petits cartons que vous avez vus tout à l'heure, mais qui sont des enchères qui sont codées. Ce qui est annoncé sur la table n'est pas forcément la couleur demandée. Ça, c'est un petit peu technique.
Donc, vous avez dit on peut jouer à 15 tables en même temps, mais ça veut dire que sur une même table, on est combien? On est 4?
4, oui.
On est 4 et ça joue en équipe, en diagonale?
En équipe, oui.
Donc, si on est 4 à table, on est avec celui qui est en diagonale de nous.
On joue par paire.
Par paire, d'accord.
Donc là, il y a la ligne nord-sud qui reste fixe et les est-ouest qui changent au fur et à mesure du tournoi. Ils jouent, mettons, à la table 1, après ils passent à la table 2 et les étuis, eux, descendent.
D'accord.
Pour pouvoir jouer toujours les mêmes jeux. Enfin, on joue tous les mêmes jeux. C'est un jeu de comparaison.
D'accord. J'avais une autre question que je viens de manger. Peut-être Sandra. peut-être sur l'ambiance. Donc
oui, simplement sur ces lignes nord-sud-est-ouest, hein, puisque on est quadrillé comme ça, les résultats se font en fonction de ces lignes. On a un classement en nord-sud pour tous ceux qui auront joué les jeux nord-sud.
D'accord.
Et un autre classement est-ouest pour ceux qui auront joué les autres cartes.
Si jamais on entend les règles, peut-être qu'on n'a pas tout compris, mais que ça nous intéresse, si on est débutant, comment on peut venir apprendre?
Comment ça se passe? Disons que le principe du jeu de bridge nécessite, une approche délicate, dans la mesure où... il y a énormément de choses à apprendre et ces choses, on ne peut pas les apprendre en quelques jours. Il faut plusieurs mois, voire quelques années pour apprendre à jouer. Le jeu se limite à des enchères, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a des enchères qui vont de 1 jusqu'à 7.
Mmh. Du coup, on est débutant, voilà, qu'on veut apprendre, comment ça se passe si on veut apprendre à jouer?
Il y a ce qu'on appelle des professeurs, des moniteurs qui vous enseignent. Il y a énormément de choses à apprendre et il faut commencer par apprendre ces choses.
Donc, il faut suivre un cours?
Il faut aller faire, prendre des cours.
Oui.
Donc, il y a des cours qui sont dispensés toutes les semaines. Donc, il y a un moniteur qui fait la première et deuxième année. Et on a un maître assistant, notre président, qui fait les perfectionnements et compétitions.
D'accord. Et en termes de budget pour un adhérent, comment Quel coût ça peut représenter si on...
C'est très modique.
C'est modique.
C'est très modique. On a le prix d'une licence qui se situe aux alentours de...
21 euros.
La licence est à 21 euros, ce qui permet de jouer toute l'année. Et ensuite, on a une cotisation du club, 50 euros.
Donc pour 70 euros, on peut apprendre à jouer au bridge et faire partie du club.
Voilà.
Oui, mais pour, par exemple, les élèves, la cotisation est moindre.
D'accord.
Voilà. Et la première année est offerte par la fédération.
Oui.
Nous sommes de retour avec le Bridge Club.
1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour.
Alors peut-être un petit mot sur la musique qu'on vient d'entendre. Voilà. Alors peut-être si pour le off, pour expliquer à nos auditeurs. Du coup, Madame Pernin, vous nous avez dit que avant de venir, voilà, vous écoutez souvent cette musique-là dans votre voiture.
Dans ma voiture, voilà. Parce que je l'apprécie. Et puis, en plus, à un certain moment, mais je me rappelle plus de la chanteuse qui chantait dessus. Elle avait une voix superbe. Et c'est pour ça que après, je me la suis procurée.
Alors, je vous propose qu'on puisse poursuivre, du coup, pour parler du Bridge Club. Alors, peut-être des dates à venir.
Alors, le 13 avril, c'est un samedi. Ce sera la fête anniversaire du club, qui a été créé en 1948, mais dont la célébration a été repoussée d'un an, parce qu'on était en recherche d'un local l'année dernière. Le stationnement est difficile, on avait négocié avec le propriétaire, mais on ne peut mettre que 3 voitures, donc on a essayé d'obtenir mieux, d'obtenir plus grand, d'obtenir en centre-ville tout de même, et ça s'est avéré impossible, très difficile. Donc on est resté par
Donc vous êtes obligation. Route des Blanchisseries.
Voilà, 8 rue des Blanchisseries.
8 rue des Blanchisseries.
À côté de l'école Louis Parent. Et pour donner le sourire à nos adhérents, on a fait refaire tout ce local qui fait 170 mètres carrés. Donc tout a été refait à neuf.
Et alors qu'est-ce qui va se passer le 13 avril ?
Et le 13 avril, il y aura un tournoi festif, comme le disait notre secrétaire général. Tournoi festif avec invitation des clubs partenaires, amis Oyonnax et Mâcon, et puis nos amis et partenaires de la municipalité. Ça sera le pot de l'amitié à la fin du tournoi.
C'est ouvert à tout le monde ou seulement aux, justement, aux associations partenaires et aux adhérents ?
Là, ça sera limité à 17 tables parce que notre local n'est pas extensible. Donc, on est obligé de mettre un numerus clausus à l'inscription.
D'accord.
Peut-être sur l'avenir de l'association, comment vous le voyez ? Est-ce que le nombre de joueurs augmente ?
Il est stable depuis pas mal d'années. Le fait que nous ayons modernisé, rafraîchi les locaux nous permet d'avoir une fréquentation légèrement au-dessus de la moyenne. On a en moyenne 12 ou 13 tables, ce qui représente 40 à 50 personnes qui viennent jouer régulièrement. Et nos jours de rencontre ont lieu les lundis, mercredis et vendredis l'après-midi et le jeudi soir.
Donc si on sait jouer, on veut venir jouer, on vous trouvera donc lundi après-midi, mercredi après-midi, vendredi après-midi et jeudi soir. Rue des Blanchisseries.
On peut venir voir jouer aussi. Hein, le club est ouvert, bien de regarder faire. Ensuite, il y a les cours qui sont dispensés, dont on peut parler aussi.
Et on n'a pas trop parlé de l'âge de vos adhérents. Est-ce qu'il y a quand même tout âge ou...
Notre moyenne d'âge est, on va dire, assez élevée.
On a pas
on fait le calcul, mais...
À peu près de 70 ans.
C'est voilà, au-delà de 60 ans, c'est sûr.
Il y en a des plus jeunes, ça c'est sûr, c'est la montée. Et puis après, y a toutes les personnes qui sont là depuis 20-30 ans dans le club.
Vous avez tous les trois des responsabilités dans le club. Alors voilà, est-ce que c'est lourd ? Comment ça se passe ? Comment vous y prenez pour la gestion quotidienne du club ?
Moi, je fais tout par informatique puisque je suis la secrétaire. Donc ça fait plusieurs années, donc j'ai beaucoup de choses qui sont déjà prêtes. Quand j'ai besoin d'une affiche, j'ai mes anciennes affiches que j'ai bien concocté. Donc voilà, c'est tout.
Vous vous retrouvez régulièrement en bureau, vous avez un conseil d'administration?
Oui, on a un conseil d'administration à peu près tous les un mois ou deux mois ou trois mois, tout dépend. Là, on a eu un conseil d'administration le 4 février et on se reverra le 1er avril pour mettre au point la fameuse journée des 70 ans du club.
François, qui est à ma gauche, était moniteur, donc il enseignait. On a dit qu'on avait deux enseignants qui aujourd'hui ont pris la relève, Jean-Luc Huillery et notre président Éric Villedieu. Et Denise et moi, qui sommes arbitres dans le club, nous organisons les tournois, nous sommes responsables des tournois. L'arbitre, il gère les conflits, mais les conflits, c'est simplement des erreurs à la table. C'est pas, et très rarement, des bagarres entre adversaires.
Et au niveau des valeurs du bridge, on n'en a pas trop parlé, est-ce qu'il y a des valeurs très importantes dans le bridge particulières ?
Elles sont affichées, en tout cas par la fédération, c'est le respect de l'adversaire, c'est également la convivialité, c'est un sport de l'esprit qui doit être en même temps jumelé avec
l'esprit sportif.
Oui, c'est ça, la sportivité et l'amabilité. Ce qui ne se rencontre pas toujours en compétition à la table dans le Lyonnais.
Il arrive parfois que, je ne sais pas, vous ayez des déplacements, je ne sais pas, il y a des championnats régionaux, nationaux
On a des compétitions et donc on fait partie du comité du Lyonnais. Donc la plupart du temps, ces compétitions se déroulent sur Lyon. Donc on se déplace pas mal.
D'accord, sur Lyon. Et du coup, est-ce qu'on peut vous demander un peu les résultats ? Comment se passe votre saison là ? Vous fonctionnez par saison, septembre, juin ?
Du 1er juillet au 30 juin.
D'accord.
La saison. Et actuellement, on est en plein dans les compétitions. On a des équipes en interclub. Alors, l'interclub, c'est-à-dire que ce sont toutes des personnes qui sont licenciées dans le club et qui jouent contre d'autres équipes du Lyonnais. Donc, on a deux équipes en D1, c'est-à-dire c'est en excellence. Après, on a, je crois, des équipes en D3 et en D4 et D5. Voilà, les D5, ce sont les équipes pour les débutants et ceux qui sont classer, mettons...
Les petits classements.
Les petits classements où les personnes qui ont...
Quatrième et troisième série.
Oui, et qui ont fait 2-3 ans d'apprentissage et qui se lancent en compétition.
Oui, une analogie entre les classements des bridgeurs et les classements des tennismen. Hein,
d'accord, les, ça fonctionne.
Ça fonctionne pareil. On gagne des points, et plus on gagne de points, plus on change de catégorie. Pour aller vers les catégories supérieures. Les tournois dont parle Denis, c'est des compétitions par quatre. On est quatre personnes du même club qui, dans la rencontre, se trouvent dans les deux lignes différentes qu'on a évoquées
donc,
tout à l'heure.
Donc, on disait nord-sud et
est. Voilà. Voilà. Ce qui fait que l'équipe adverse prend les mêmes lignes. Là, on a un jeu vraiment très exactement partagé, enfin comparable, bien évidemment, puisque tous les joueurs auront joué exactement la même chose pendant 27 donnes.
Et au niveau résultat, alors
Il y a des résultats qui sont variés, mais on a de bonnes équipes en première division, enfin, oui. Ce qui était la première division.
Oui, oui.
Et les équipes, elles changent ou c'est toujours les deux mêmes partenaires? Même quand vous jouez, je veux dire, hors tournoi, quand vous jouez dans votre local, est-ce que vous mixez, variez ou c'est tout le temps
On mixe, oui, absolument, oui. En compétition, c'est différent, c'est préférable que les partenaires s'entendent. Voilà, parce que sinon, on risque d'aller vers des erreurs... qui se paye très cher, parfois.
Il faut ajouter peut-être une compétition qu'on n'a pas évoquée. Là, ça se faisait par quatre, mais il y a des compétitions par deux, donc qui sont des compétitions par paire, où là, c'est une paire qui s'engage, pas forcément avec deux personnes du même club, et les classements se font par paire. On est champion du Lyonnais en par paire, senior, mixte, femmes, il y a des multitudes de compétitions.
Et ça demande de bien connaître nos partenaires, d'avoir une habitude de jouer ensemble. Plus on a l'habitude de jouer ensemble, plus on va avoir des réflexes et plus on sera meilleur.
Oui, c'est évident. Hein.
Oui.
Donc, je vais prendre mon cas. J'ai une partenaire dame, elle est à Mâcon. Donc, quand je vais m'entraîner avec elle, je vais à Mâcon, jouer au tournoi de Mâcon. Mm-hmm. Et elle vient aussi au tournoi de Bourg pour qu'on s'entraîne ensemble.
D'accord. Voilà. Le temps avance. Pour terminer, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite de l'association ou pour la suite de vos engagements personnels dans le club?
Dans les échéances intramuros, on a besoin maintenant d'un renouvellement du bureau. Il va partir en masse en fin de service, c'est-à-dire avant l'Assemblée Générale. Pourquoi? Pour simplement avoir rendu service pendant de nombreuses années. Et il nous semble qu'un renouvellement est nécessaire, comme dans toutes les associations. Les permanents des associations, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc on lance un appel, c'est ce qui va se faire ces jours. On lance un appel pour que quelques-uns se présentent volontaires, sachant qu'il faut aujourd'hui, non pas présenter un bureau, mais présenter un président. La secrétaire le rappelait, notre réunion dernière, un président, un secrétaire, un trésorier.
Un trésorier.
Oui, président.
En liste.
C'est ça.
Donc. D'accord, donc des adhérents qui auraient envie de gérer le club, un peu les budgets, organiser les tournois,
absolument,
s'occuper des relations avec la mairie. Voilà.
Exactement. Sachant qu'on essaiera d'aider à faire le lien, bien évidemment.
C'est l'heure de mettre un point final à notre interview. Merci d'être venu jusqu'à nous. Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet?
Sur Internet, on a un site du club. C'est bridgeclubdebourg.fruit.fr.
Merci beaucoup à tous les trois.
Merci à vous.
1901 sur 90, sur Radio B, l'instant formation.
Aujourd'hui, je vais prêter ma voix à Renaud Drouy, directeur de l'AGLCA, pour vous parler des impacts du numérique sur la vie associative. Car l'AGLCA lance un programme de montée en compétences sur le sujet. L'impact du numérique sur les organisations induit des transformations génératrices d'opportunités, mais également de risques, qu'il est nécessaire d'appréhender. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet associatif, l'AGLCA, Maison de la vie associative, se saisit de l'enjeu du numérique pour lancer un programme de montée en compétences sur trois axes. Emploi et numérique, territoire, engagement, citoyenneté et nouvelles formes de gouvernance. En effet, les mutations liées au numérique induisent de nouveaux bouleversements pour les associations du département de l'Ain. Des nouvelles formes d'engagement, de gouvernance, des prises de décision à distance, par exemple, tout ce qui est le fonctionnement par mail, les réseaux sociaux, des enjeux de financement, d'organisation du travail à distance, du télétravail, dans le lien au territoire. Voilà. Ça nécessite un accompagnement ambitieux et de qualité. Par exemple, l'employeur associatif a besoin d'un accompagnement adapté. Par les mutations du numérique, l'intensification de la question économique, son quotidien se trouve transformé sur de nombreux champs. Le travail à distance, le télétravail, les nouveaux modes de management, les différentes formes de mutualisation, matérielle, humaine, avec les groupements d'employeurs par exemple, ou les espaces de travail partagé ou de coworking qui peuvent encourager des encadrements interassociatifs ou des travaux en partenariat. Des modes de gouvernance, voilà, on va utiliser des logiciels libres pour décider à distance, pour débattre sur des sujets. Le fonctionnement hiérarchique en est forcément bouleversé. Face à ces constats, la GLCA, en lien avec sa coordination régionale Savara, mène en 2018-2019 un travail au service des associations sur ces questions. Dans un premier temps, le projet vise à favoriser la montée en compétences de la GLCA, qui est aussi impactée par ces transformations. On proposera des formations, des échanges, de la capitalisation des pratiques et de la mutualisation dans le cadre d'un petit groupe de pilotage régional sur l'appui à la vie associative. Et dans un second temps, ce projet permettra de renforcer l'accompagnement au numérique apporté à toutes les associations qui se situent dans le département de l'Ain, et plus particulièrement aux petites et moyennes associations.
1901 sur 90, sur Radio B, l'agenda de la Maison des Assos. L'année de formation de la GLCA se termine en avril avec deux formations. Donc une à Jacin-Riotier le 2 avril sur construire un budget prévisionnel et rechercher des financements. Et le 4 avril à Bourg-en-Bresse dans les locaux de la GLCA sur la gestion des ressources humaines des salariés.
sur 90, la radio des assos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain sur 90 FM, les ondes de Radio B, ou en podcast sur le site internet radio-b.fr à la rubrique 1901 sur 90, où vous retrouverez toutes nos infos. À bientôt.